A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Plus beau fleuron de l'économie française est dans la tourmente. L'entreprise Atos vient d'annoncer le départ de son président.
Que le capital d'Atos sur les activités stratégiques reste sous contrôle exclusif de la France.
Le démembrement projeté du géant des services numériques Atos.
Une potentielle renationalisation temporaire pour sauver Atos.
Il est urgent de sauver cette entreprise et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser.
Atos, qui est en grande difficulté avec peut-être un PDG sur le départ.
Un géant français de la tech au bord du précipice. Atos, entreprise de services numériques tricolore historique, est en crise. Cette société, créée dans les années 1990, avait pourtant tout pour réussir. Partenaire du gouvernement pour le nucléaire grâce à ses supercalculateurs, Atos, c'est à l'origine des activités d'infogérance, de gestion de serveurs informatiques. Mais pas que. Avec le temps, ce mastodonte européen s'est diversifié. Depuis quelques années, il est présent sur des marchés porteurs, à l'instar de la cybersécurité et du cloud. Aujourd'hui, il compte plus d'une centaine de milliers d'employés, dont plus de 50 000 en France. Des employés plongés dans l'incertitude la plus totale depuis près de 2 ans. Atos est cerné par les dettes et les échéances de paiement approchent. L'urgence, trouver des liquidités. À cette fin, en 2022, un projet est lancé. La scission de ses activités en 2 entreprises. Eviden d'un côté, Tech Foundation de l'autre. Un projet qui a suscité l'ire des députés français et de certains actionnaires. Aujourd'hui, la situation est critique. Mais que prévoyait exactement ce projet de scission? L'entreprise va-t-elle droit dans le mur? Est-ce la fin d'un champion français? Pour répondre à ces questions, Siècle Digital est allé voir Leïla Marchand, journaliste aux Échos. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Leïla Marchand, tu es journaliste pour le média Les Échos. Et si tu es avec moi maintenant, c'est notamment parce que tu as pas mal écrit, je crois qu'on peut le dire, sur Atos ces derniers temps. Et il faut dire, je pense que là tu seras d'accord aussi avec moi, qu'il y a pas mal de rebondissements. En tout cas, assez régulièrement, on a des nouvelles infos, des nouvelles actualités qui tombent. Et donc ensemble, nous allons explorer l'histoire d'Atos, surtout la crise actuelle, la crise que traverse actuellement le groupe français. Mais juste avant, j'ai une question. Est-ce que Atos est plongé dans une crise qu'on pourrait qualifier de sans fin, parce que ça en a tout l'air, les mois passent et rien ne change ou presque. Et est-ce que Atos va finalement droit dans le mur?
Alors, sans fin, justement non, parce que comme tu le dis, il y a un moment où soit ils vont aller dans le mur, soit... Une décision sera enfin prise pour découper la société d'une manière ou d'une autre ou pour la restructurer en profondeur, mais dans l'année, ce sera joué d'une manière ou d'une autre.
Dans les prochains mois. Dans l'année. Dans les prochains mois, d'accord, oui, ça va se dénouer assez rapidement finalement.
Oui, en fait, ils sont face à un mur de dette là, de 5 milliards d'euros, dont la moitié doit être remboursée dans les 2 prochaines années. En ce moment, ils sont en train d'avoir des discussions avec les banques pour renégocier l'échéance de certains prêts, etc. Mais le fait est qu'il faut trouver des liquidités, de l'argent très vite, donc une solution très vite.
Et justement, c'est une partie du problème, cette dette et ces paiements, ces échéances qui arrivent pour Atos. Mais faisons, avant de continuer sur ce point-là, un rapide détour sur l'histoire d'Atos. Je pense que ce sera plus qu'utile de comprendre d'où vient cette entreprise. Alors bon... On va pas tout reprendre, parce que Atos a une longue histoire faite de fusions, de rachats, de changements de nom encore et encore et encore et encore. Mais depuis quelques années, Atos est, en tout cas, à l'air relativement stable. Globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire d'Atos? D'où vient cette entreprise? Comment est né ce géant de la tech tricolore?
Alors, comme tu le dis, c'est une histoire assez compliquée pour ceux qui sont curieux. Ils peuvent aller sur Wikipédia. Il y a un graphique très bien fait sous forme un peu d'arbre généalogique.
Okay.
Des multiples fusions, acquisitions qui ont abouti. Enfin, on peut remonter jusqu'aux années 60. Mais en gros, pour faire simple, le nom d'Atos est né en 1997. Et l'entreprise, à l'époque, n'est pas du tout le géant qu'on connaît aujourd'hui. Son fondateur, c'est Bertrand Bourigeaud. C'est lui qui a participé à en faire le géant qu'on connaît. Mais à l'époque, c'était une petite SS2I, une entreprise de services du numérique qui était au bord du dépôt de bilan. Donc, il y avait environ 3000 salariés pour environ 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, pour comparer, aujourd'hui, on est à 100 000 employés environ pour 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, rien à voir.
Oui, c'est pas la même.
Voilà. Donc, le groupe a vraiment grossi au fil des années. Donc, il y a aussi de nombreux rachats qui ont participé à ça, notamment pendant la période où Thierry Breton était le PDG, donc entre 2009 et 2019. Un des rachats importants, c'était par exemple l'acteur informatique français Boule. L'entreprise a complètement changé de visage et est devenue un fleuron de la tech française.
Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur aujourd'hui, bien connu dans la sphère politique et économique en France. Atos, on l'a dit, c'est un groupe français, c'est un géant de la tech, aujourd'hui un géant du numérique, mais quand on s'intéresse un peu à ses activités, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mis de côté ce projet de scission dont on parlera juste après, mais quelles sont les activités d'Atos et ses activités surtout, c'est ça qui est important, d'origine.
Ses activités d'origine, donc c'était une entreprise plutôt du service du numérique et ils sont diversifiés. Comme je disais, donc le rachat de Boule, ça leur a permis de se muscler dans la big data et la cybersécurité. Mais ils fabriquent aussi des supercalculateurs, donc des grosses machines à calculer qui sont utilisées dans les laboratoires, par exemple pour faire des prévisions météo ou de la simulation moléculaire. Ils se sont aussi lancés dans le quantique avec une plateforme de simulation quantique. Mais ils continuent à faire leurs activités un peu plus classiques de gestion des parcs informatiques, de gestion des data centers, de mettre en place des clouds pour les entreprises, d'implémenter, de gérer des logiciels professionnels.
Ok. Est-ce que c'est pas un petit peu abusé quand on parle d'Atos comme d'un géant de la tech? Parce que des géants de la tech, il y en a plein. Beaucoup sont connus du grand public. Atos est un petit peu moins connu quand même du grand public.
Parce qu'il ne s'adresse pas au grand public aussi, il faut dire.
C'est B2B.
B2B, c'est des activités professionnelles. Ils sont en coulisses, en fait. Par exemple, c'est un partenaire mondial des Jeux Olympiques depuis 1992.
Okay.
Ils sont quand même des grands clients. En France, par exemple, parmi leurs gros clients, c'est l'État. En fait, c'est l'entreprise qui gère le système informatique de la CAF ou de la carte vitale ou de l'URSSAF. Bon, c'est moins glamour que Apple ou que Facebook. Et c'est vrai que c'est pas non plus les mêmes dimensions que les géants de la tech américains.
Mais c'est essentiel
quand même.
En France,
on peut quand même. Enfin, ils ont été, en tout cas, peut-être un peu moins maintenant, justement. Mais ils ont quand même été parmi les fleurons. Je ne sais pas à quand on parle de géants, mais ça fait partie des grands groupes français.
Oui, ça reste un grand groupe.
Voilà, c'est ça. Et avec un rôle assez stratégique dans certaines activités en France.
Et est-ce que c'est, selon toi, pour ça aussi que la saga Atos, la crise actuelle, occupe autant l'actualité française ces derniers mois? On en parle de plus en plus.
Oui, c'est vrai que je ne me rends pas bien compte à quel point on en parle vraiment dans l'actualité généraliste, comme moi je couvre ce secteur au quotidien, donc forcément ça m'intéresse, je lis beaucoup, mais est-ce que ça a vraiment fasciné les foules au-delà de ceux de ce monde de la tech française ou ceux du B2B justement qui sont directement concernés? Mais c'est vrai que ça a fait parler, en tout cas on a écrit dessus parce que, comme on le disait, on a vu ce groupe au fil des années grossir démesurément, devenir un grand nom de l'informatique français, devenir une gloire du CAC 40. Et là, tout d'un coup, cette trajectoire malheureuse, une ascension suivie d'une chute, c'est toujours assez fascinant à suivre. Donc, suivi de ce feuilleton, un rebondissement depuis 2 ans avec des changements à la direction, avec des changements de stratégie imprévus. Donc, forcément, ça fait parler, je pense. Ouais.
Est-ce que tu dirais que le début de la crise pour Atos commence en 2022, le 14 juin très exactement? C'est ce jour-là qu'Atos a dévoilé sa feuille de route pour la période 2022-2027. Dans cette feuille de route, il y avait un projet de scission de l'entreprise en deux. On va le voir, ça devient assez complexe à partir de là. Une entreprise d'un côté qui se nommerait Eviden et une autre qui se nommerait Tech Foundation.
C'est ça. Alors, en 2022, il y a eu ce projet de scission. Alors, c'est pas le début des problèmes. C'était censé être la solution au problème du groupe qui s'accumulait depuis 2021, donc de l'espoir d'être finalement plus fort séparé qu'ensemble. Au bout de des années d'acquisition, le groupe s'est dit que en fait ils avaient peut-être un problème structurel. Donc leur idée, c'était de mettre d'un côté les activités historiques du groupe dont on parlait sur la gestion des parcs informatiques, donc qui marche plus aussi bien qu'avant, parce que aujourd'hui les entreprises, elles mettent leurs données dans le cloud, et donc elles ont plus leur propre parc informatique souvent. Donc c'est une activité qui est plutôt en décroissance et qui doit être restructurée. Donc ils voulaient mettre ça d'un côté dans Tech Foundation, et de l'autre donc de créer une autre entité, donc Evidian, qu'ils ont ensuite renommée Eviden dernièrement, pour les activités plutôt prometteuses en croissance de big data, de cybersécurité, de supercalculateurs. Donc, c'était le plan présenté en 2022.
Qui devait donc répondre à une situation qui commençait à devenir délicate. Tu as parlé de 2021, c'est là le point de départ?
Oui, c'est à partir de là que Atos en fait, a commencé à perdre de l'argent, à avoir des comptes dans le rouge. Il y a eu des avertissements sur les résultats, une série de... des convenus qui ont aussi déplu au marché, parce que l'entreprise était en plus au CAC 40 à l'époque, elle est sortie du CAC 40. Il y a eu des rumeurs d'acquisition de l'américain DXC, ça s'est pas fait, donc ça, il y a eu une mauvaise presse là-dessus. Enfin, c'est là que l'entreprise a commencé à accumuler des difficultés en tout cas, et donc à se retrouver dans cette situation financière difficile.
Ok, donc bon, on est en 2022, ce projet de scission est présenté comme la solution pour résoudre les problèmes de l'entreprise, du groupe. Que se passe-t-il ensuite? J'ai l'impression que plusieurs sagas se lancent en parallèle. D'un côté, Evidian qui devient Eviden. Que devient cette partie d'Atos? Est-ce que certaines entreprises se sont rapprochées d'Atos pour essayer de racheter tout ou partie de Eviden?
Alors, à l'époque, leur plan était de céder Eviden, mais de trouver des actionnaires minoritaires à hauteur de environ 29% dans Eviden.
D'accord.
Et les candidats se sont pas bousculés. Il y a eu un temps Airbus, donc c'était en janvier de l'année dernière, qui ont sérieusement étudié le dossier. Finalement, c'est un des actionnaires d'Airbus qui est... un actionnaire activiste qui s'est fortement opposé au projet. Donc, c'était un actionnaire très influent. Il a dit que pour lui, ça s'apparentait à un sauvetage de l'entreprise un peu dirigé par l'État, et que eux, ils ne voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas que, en gros, son argent soit utilisé à faire ça.
Un actionnaire britannique de mémoire, je crois.
Oui, c'est ça, oui. Et donc ça s'est pas fait. Airbus s'est retiré du dossier. Donc c'était le meilleur espoir à l'époque pour Atos de trouver cet actionnaire de référence pour Eviden. Et donc ils ont dû changer de plan.
Ok.
Et donc tout s'est retourné ensuite à l'été 2022. C'est là que au début du mois d'août, on a appris que Atos changeait ses plans. Donc l'idée était de finalement garder la partie Eviden et de céder la partie Tech Foundation, parce qu'ils avaient eu une offre de Daniel Kretinsky, donc le milliardaire tchèque, pardon, qui fait un peu ses emplettes en France depuis quelques temps, par exemple avec Casino et autres, enfin, de nombreuses acquisitions. Et donc, il s'intéresse souvent aux activités comme ça qui sont plutôt en train de péricliter, mais qu'il peut restructurer pour refaire partie. Donc, il s'est intéressé à Tech Foundation, il a fait une offre et Atos a répondu qu'ils étaient OK pour rentrer en négociation exclusive. Donc, quand ils ont annoncé ça en août, on sentait même que l'affaire était quasiment pliée, que pour eux, c'était la nouvelle solution pour sauver le groupe.
Pour apporter des liquidités, notamment pour les échéances liées à la dette. OK, donc Airbus s'est retiré totalement du projet d'entrée au capital d'Eviden. Je crois qu'il y avait Thales aussi, non, qui était dans le coup.
Thales n'a jamais fait d'offre formelle dans le dossier. On sait de plusieurs sources plus ou moins proches qu'ils ont été intéressés, qu'ils restent toujours plus ou moins en embuscade, mais jamais eu d'offre de Thales.
Ok. Donc, il y a l'accord Tech Foundation a été valorisé à 2 milliards d'euros à ce moment-là, pour l'accord avec Daniel Kretinsky, qui devait aussi avoir un faible pourcentage d'Eviden. Donc il y a cet accord, et au même moment, ou presque, hein, un petit peu après, il y a des députés qui commencent aussi à s'emparer du débat, non ? À l'Assemblée nationale, certains ont peur pour les activités historiques, et il est même question d'une possible nationalisation temporaire.
Voilà, c'est un peu monté en épingle au niveau politique, du fait que, donc, que Daniel Kretinsky, donc, qui a été montré du doigt comme un acteur étranger qui s'approcherait d'un fleuron français, donc pas parce qu'il s'approchait de Tech Foundation, mais plutôt d'Eviden. Donc, comme on parlait des supercalculateurs, ces supercalculateurs peuvent être utilisés pour faire de la modélisation nucléaire. D'ailleurs, ils en ont vendu un au CEA pour faire ce genre de choses. Donc, ils ont vu d'un mauvais œil s'approcher ce milliardaire étranger d'activités proches de l'État ou proches de l'armée française. C'est pour ça qu'il y a eu une levée de boucliers, et donc une proposition soit de nationalisation, soit de nationalisation partielle ou temporaire. Enfin, en tout cas, c'est pas allé au bout, et l'Élysée ne s'est jamais exprimé clairement de son côté sur ce dossier. Il ne s'est jamais exprimé pour une nationalisation non plus.
Donc, ça ne donne rien au niveau politique, finalement, ça ne débouche sur rien. Mais est-ce que ça a impacté Atos et l'accord qui avait été trouvé avec Daniel Kretinsky?
Alors, ça a clairement affecté les négociations. Alors, sans doute, donc, ce dossier politique a participé à en faire un dossier chaud. Et Daniel Kretinsky n'a sans doute pas apprécié d'être montré du doigt comme ça par les politiques français. Mais c'est surtout que les actionnaires d'Atos eux-mêmes étaient vraiment remontés contre cet accord, parce qu'après avoir bien étudié ce qui était proposé à Daniel Kretinsky, ils trouvaient que c'était un deal beaucoup trop avantageux pour Daniel Kretinsky. Ils considéraient que Tech Foundation valait beaucoup plus que ce qu'ils en proposaient. Alors, c'est assez complexe, ce deal financier, je ne saurais pas vous l'expliquer en détail, mais en tout cas, ils n'étaient pas satisfaits du deal, et encore moins du fait que Daniel Kretinsky prendrait une participation dans Eviden, et que celle-ci serait ensuite suivie d'une montée au capital. Bon, ça voudrait dire que leurs actions auraient été fortement diluées. Enfin, bref, il y a eu aussi ce sac de nœuds du côté des actionnaires qui a obligé Atos à revoir sa copie. Donc, en novembre, le président du conseil d'administration est parti, Bertrand Meunier, et ça a été suivi par un communiqué qui disait que Atos était en train d'essayer de renégocier les termes de la cession à Daniel Kretinsky.
Ok, donc finalement, l'accord est mis à mal par les actionnaires et par les responsables politiques français. Et aujourd'hui, on en est où un peu de tout ça? Est-ce que l'accord devrait être renégocié bientôt? Est-ce que d'autre part, des entreprises comme Airbus, par exemple, qu'on a évoquées avant, sont revenues à la charge pour aussi entrer au capital?
Alors, à ce stade, ce que l'on sait des négociations avec Daniel Kretinsky, c'est qu'elles sont toujours en cours. Si le deal se fait, Atos voudrait que ce soit à de meilleures conditions et sans que Daniel Kretinsky ne participe au capital d'Eviden.
Oui, donc on s'éloigne déjà pas mal de ce qui avait été trouvé initialement.
Voilà, c'est ça. Les derniers échos que l'on a pu avoir, donc ce n'est pas officiel, mais les derniers échos qu'on a pu avoir, c'est que Atos était en train de mener des réunions de la dernière chance avec les équipes de Kretinsky pour essayer de sauver le deal, mais que c'était plutôt en très mauvaise voie finalement, parce que D'accord. Daniel Kretinsky considère certainement qu'il est le seul acheteur, qu'il avait fait une belle offre et qu'il est en position de force, et il n'est pas prêt à faire une fleur, ou en tout cas à revoir les conditions autant à la hausse. Et du côté d'Airbus, donc effectivement, Airbus est revenu dans le dossier. Ils étaient toujours très intéressés par ces activités cybersécurité qui pourraient être assez complémentaires avec les leurs. Et puis cette fois, ça les intéresserait davantage d'acquérir donc une partie de BDS. Donc, ils seraient vraiment propriétaires et plus, ça ressemblerait plus au deal de l'année dernière qui consistait pour eux à seulement être actionnaires minoritaires. Donc, ils ont fait une proposition, ils sont entrés en négociation exactement. Mais c'est encore en phase préliminaire, donc on ne sait pas du tout si ça va aboutir non plus.
Ok, BDS qui regroupe notamment les activités de cybersécurité d'Atos.
Voilà, BDS, c'est Big Data et Sécurité, oui, c'est ça.
Bon, là, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est un peu la situation à l'heure où on se parle. Parlons en quelques mots, tu l'as déjà un petit peu fait, de la direction de l'entreprise. Il y a eu aussi pas mal de turnover à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore instable au sommet de la pyramide ?
On espère pour eux que ça s'est stabilisé. C'est vrai que les derniers mois, ça a été la valse des chefs chez Atos. Donc depuis le début de l'année, le nouveau directeur général, c'est Paul Salé. Donc, je disais, le quatrième à occuper ce poste-là en 2 ans. Lui, avant, c'était le directeur financier. Donc on sent que c'est les banquiers qui reprennent un peu la main sur le dossier parce que c'est les échéances créancières, comme je disais tout à l'heure, qui arrivent. Et donc, Atos s'est transformé en un dossier surtout financier plutôt qu'industriel. Ils sont en train d'essayer de sauver les meubles, en gros. Donc, Bertrand Meunier, qui était là depuis l'époque de Thierry Breton, est parti aux environs du mois de novembre. Et il a été remplacé, donc lui aussi, par un banquier, Jean-Pierre Mussier. Il y a eu d'autres mouvements ces derniers mois aussi avec Yves Bernaer, qui est resté à peine 3 mois, qui était à la direction, qui a été remplacé lui également, et quelqu'un qui a été nommé avec lui comme General Manager, parce qu'apparemment, il avait besoin d'aide à ce poste. Celui-là, il a dit clairement aussi qu'il ne resterait pas très longtemps. Donc voilà. Et puis également, Jean-Pierre Mussier, pardon, je reviens sur lui, mais il a aussi prévenu qu'il était là seulement le temps de redresser Atos et qu'il partirait ensuite. D'ailleurs, il a précisé plusieurs fois qu'il faisait tout ce travail bénévolement. Il tenait à montrer qu'il n'avait pas d'intérêt dans le dossier. Donc, il va faire ça le temps de redresser le groupe, en fait. Et ensuite, il partira aussi.
Donc, en fonction de ce qui restera
d'Atos, il y aura sûrement une nouvelle direction ensuite qui sera nommée. Mais ça reste encore à voir.
Ce que tu viens de nous dire montre bien qu'il y a une instabilité à la direction d'Atos. Il y a une instabilité globale finalement chez Atos. Toi qui écris pas mal ces derniers temps sur le sujet, est-ce que ça t'étonne cette instabilité d'Atos survenue depuis environ 2021 ? Est-ce que depuis le départ, comme d'autres géants de la tech hein, par le passé, Atos est une entreprise assez instable ? Ou au contraire, c'est assez étonnant la situation dans laquelle on se trouve ?
Oui, finalement, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire qu'ils sont sur des activités prometteuses, comme on disait, big data et cybersécurité. Ça aurait pu être. On se dit qu'il doit y avoir un problème de gestion quelque part, des choses dans les placards. Parce que comment ça se fait qu'ils en soient arrivés là ? Est-ce qu'il y a vraiment de gros problèmes de gestion qu'on ne connaît pas ? C'est difficile à dire de l'extérieur, mais en tout cas, on trouve ça forcément très dommage quand on voit. Une telle entreprise tech quasiment arrivée au bord du démantèlement. Et puis, on pense quand même aux 100 000 employés qui sont aussi dans l'incertitude depuis 2 ans, qui se demandent si, où est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont garder leur poste. C'est surtout ça, oui.
Mais c'est étonnant, et d'autant plus à l'heure aussi où on parle de plus en plus de souveraineté française, européenne, un fleuron. Qui est au bord de l'effondrement, ça peut inquiéter, ça peut étonner, mais c'est assez flou finalement encore la situation d'Atos, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve que c'est assez flou, on ne sait pas trop quelle direction va prendre l'entreprise, Tech Foundation, Eviden, on ne sait pas trop où ça va aller tout ça. Est-ce que le bout du tunnel malgré tout commence à apparaître ? Tu l'as dit, la décision, le bouquet final devrait arriver dans les mois qui viennent, mais est-ce que le bout du tunnel commence pour toi à apparaître ou est-ce que finalement on se dirige vers un fiasco et on se dirige vers la fin d'Atos.
En tout cas, pour la première fois dans son communiqué au début de l'année, le groupe a parlé d'éventuellement se mettre sous protection juridique. Enfin, il parlait pour la première fois d'une possibilité de faillite. Alors, on espère que ça n'en arrivera pas là, mais pour le moment, c'est vraiment l'incertitude. On peut pas. C'est difficile de parier sur un scénario. Ou un autre, je pense que même d'ici quelques semaines, on y verra plus clair une fois que les réunions avec les banques et avec Daniel Kretinsky auront abouti. Mais à ce stade, encore très compliqué, je ne saurais pas dire.
Il y a encore peu de visibilité sur l'avenir du groupe français, mais nous terminerons malgré tout sur ces dernières paroles. Et il y a donc fort à parier qu'on parle tous bientôt de nouveau de Atos et des péripéties autour de sa restructuration et de son sauvetage. Merci Leïla pour ta présence et ton expertise.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci également à nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Allez, à la semaine prochaine.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.